Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3. Jérémy?
Oui.
À ton tour.
Oui, ben c'est ça, là, vous allez pouvoir en parler. Ben peut-être Alex a suivi ça aussi. Fait que, ouais, des responsables de l'administration Trump ont discuté d'un plan secret d'attaque contre le Yémen dans un groupe de discussion commercial. Donc, le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, je sais pas si j'ai son nom correctement.
C'est pas grave.
Oui, c'est ça, je me dis.
Il est pas, c'est pas le plus brillant de la gang.
Oui, c'est ça. A divulgué des plans de guerre dans un groupe de discussion chiffré auquel participait un journaliste 2 heures avant que les troupes américaines ne lancent des frappes contre la milice houthie au Yémen, a confirmé la Maison-Blanche lundi, corroborant un article du magazine The Atlantic. Le rédacteur en chef The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a révélé dans un article publié lundi qu'il avait été ajouté par erreur à cette conversation sur l'application de messagerie commerciale Signal par Michael Waltz, le conseiller à la sécurité nationale. Il s'agit d'une violation majeure de la sécurité nationale américaine. Non seulement un journaliste a été inclus accidentellement dans le groupe, mais la conversation s'est également déroulée en dehors des canaux sécurisés du gouvernement, normalement réservés aux communications classifiées et la planification militaire hautement sensible. M. Goldberg a déclaré qu'il avait pu suivre la discussion entre de hauts responsables de la sécurité nationale du président Trump dans les 2 jours précédant les frappes au Yémen. Selon lui, le groupe comprenait également le vice-président Jay Levin et le secrétaire d'État Marco Rubio. Ouais, fait que le 14 mars, 11h44, heure de Washington, M. Hegseth a publié des détails opérationnels des frappes imminentes contre le Yémen, y compris des informations sur les cibles, les armes utilisées par les États-Unis et la séquence des attaques. Si ces informations avaient été lues par un adversaire des États-Unis, elles auraient pu être utilisées pour nuire aux forces militaires au service de renseignement américain, particulièrement au Moyen-Orient. Dans une interview, M. Goldberg a expliqué qu'au départ, la conversation portait sur les procédures et les discussions politiques, mais qu'elle s'est soudainement transformée en plan de guerre, ce qui lui a donné des frissons. Il a précisé qu'il n'a pas publié des détails des plans militaires dans son article. Je pense qu'il n'avait pas envie de finir en prison.
Ouais, c'est...
Il n'avait pas envie de faire un Snowden 2.0. C'est une possible violation de l'Espionnage Act. Monsieur Hegseth aurait écrit dans le groupe que les premières détonations au Yémen se feraient sentir dans 2 heures à 13h45, heure de Washington. Ce qui a conduit M. Goldberg à attendre dans sa voiture sur le parking d'un supermarché pour voir si l'attaque aurait bien lieu. Si cette conversation sur Signal était réelle, je me suis dit que les cibles outils seraient bientôt bombardées. Vers 13h55, les premières frappes aériennes ont frappé des bâtiments dans des quartiers de Sanaa, la capitale du Yémen, connue pour abriter des dirigeants houthis, selon des responsables du Pentagone et des habitants. Les frappes se sont poursuivies tout au long de ce samedi et les jours suivants. Dans la discussion, M. Hegseth a assuré au groupe, incluant donc le journaliste, que des mesures avaient été prises pour préserver la confidentialité des informations. Nous sommes actuellement propres en matière de sécurité opérationnelle. Le OPSEC aurait-il écrit. Plusieurs responsables du département de la défense ont exprimé leur choc en découvrant que M. Hegseth aurait partagé des plans de guerre américains dans un groupe de discussion commerciale. Selon eux, une telle discussion sur Signal pourrait constituer une violation de l'Espionnage Act, une loi régissant la gestion des informations sensibles. J'ai vu d'ailleurs beaucoup de gens qui ont dit « démissionne ».
Ben c'est probablement ce qui va arriver parce que c'est inacceptable. Puis c'est même le journaliste, il voulait pas y croire, tu sais, il disait en entrevue que au début je pensais que c'était une joke, tu sais, je pensais que les noms, ça se pouvait pas qu'ils soient dans une conversation de cette ampleur là avec des personnes importantes du gouvernement de Donald Trump, jusqu'à temps que c'est ça, ben comme tu le dis, il s'arrête pour voir que l'événement se produit pour vrai, puis là, il a fait
« Oh
OK, c'est vrai, on est réellement en train de parler de ça sur un réseau public que n'importe qui pourrait avoir accès. » Je sais pas à quel point Signal est chiffré comme WhatsApp, par exemple.
Ben, je viens d'aller voir, puis c'est vraiment comme... C'est comme moi.
Ben, ça doit être l'équivalent de Teams.
C'est comme WhatsApp.
C'est comme n'importe quelle entreprise que tu utilises un logiciel de communication, puis tu sais, c'est chiffré.
Oui, ben comme en joke, on disait...
Ils sont encryptés, là, les conversations sont
encryptées. Oui, mais ils sont encryptés pour une... À ma job, on est sur des réseaux Teams encryptés.
Oh oui.
Mais on est sur Teams, on parle de bière, ouais. Là, bâtard. Là, on parle pas de frappe-outils, tu sais. Les moyens qui vont être utilisés pour déchiffrer mes informations comparativement aux Américains, c'est pas les mêmes, tu sais.
Non, effectivement.
C'est des États qui vont s'attaquer justement à ce type de conversation-là. Ils ont souligné, c'est ça, pendant la conversation, ils ont souligné que révéler des plans d'opération militaire avant leur exécution pourrait mettre directement en danger les troupes américaines. Rédaction et enquête en cours. Donc, le sénateur démocrate Jack Green, membre de la commission des forces armées, a qualifié cette affaire de l'un des échecs les plus flagrants en matière de sécurité opérationnelle et de bon sens que j'ai jamais vu. Les opérations militaires doivent être menées avec la plus grande discrétion et précision, en utilisant des lignes de communication sécurisées, car des vies américaines sont en jeu. Le président Trump, interrogé par des journalistes de la Maison-Blanche, a affirmé ne rien savoir de cette affaire. Ça, c'est inquiétant aussi.
Oui, effectivement.
Le Pentagone a redirigé les questions vers le Conseil de sécurité nationale. De son côté, M. Hexett était en déplacement à Hawaï lundi, puis en étape d'un voyage d'une semaine en Asie. Dans un communiqué, oui.
Ouais, là-dessus, évidemment, quand il est descendu de l'avion, on lui a posé des questions là-dessus, s'il y avait quelque chose à dire là-dessus. Et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Ah, ben ce journaliste-là, il fait juste déblatérer des fake news. Ça a été prouvé qu'il n'y a pas de rigueur journalistique. » Fait que, peu importe. Et l'ironie là-dedans, c'était que la Maison-Blanche avait bien confirmé que c'était une conversation authentique. Que lui-même essayait encore de se défendre en disant que c'était des mensonges, mais son boss au-dessus de lui avait dit que c'était une vraie conversation. Donc, son angle d'attaque de dire que tout est de la faute des fake news médias ne tenait déjà pas à sa sortie de l'avion. Fait que peut-être qu'il avait laissé son cellulaire là, sur le mode avion, mais il aurait fallu qu'il le rallume au moment d'atterrir.
Mais c'est ça, dans un communiqué, là, Brian Hughes, porte-parole du Conseil de sécurité nationale,
qui rouvre son messenger.
À aucun bon sens. Il a confirmé que le fil de discussion rapporté semble authentique, ajoutant que les autorités examinent comment un numéro a été ajouté par inadvertance à la conversation. Il a également décrit comment cet échange comme une démonstration de la coordination politique approfondie et réfléchie entre les hauts responsables.
En fait, si c'est pas exact lui-même, qui dans la conversation a rajouté le journaliste?
Oui.
Il y a surtout ça.
Il a reçu une invitation officielle qui a dit
« Voulez-vous vous joindre à la...
Ouais, » okay, ouais,
c'est peut-être l'équipe.
C'est ça, tu sais, c'est ça. Ça n'a aucun bon sens, puis on va parler un petit peu d'ironie politique, là, on a encore un petit peu de temps. Trump et la gestion et sa gestion des informations sensibles. On se rappelle, lors de son premier mandat, Trump a répété à plusieurs reprises que Clinton devait être emprisonné pour avoir utilisé un serveur de messagerie privée, alors
oui,
qu'elle était
vrai.
Secrétaire d'État.
C'est vrai.
En juin 2023, Michael Waltz, l'homme qui a ajouté le journaliste par erreur Groupe Signal, avait lui-même décrit sur les réseaux sociaux le conseil à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a envoyé des messages top secrets au compte privé d'Hillary Clinton et qu'a fait le ministère de la Justice absolument rien. L'affaire soulève ainsi des questions sur la manière dont l'administration Trump a elle-même géré des informations ultra sensibles. Fait qu'une belle ironie, justement.
Ben, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
Oui, c'est ça, exact. Fait que, voyons donc.
c'est ça. Déjà, on se doutait un peu que ce gars-là était pas particulièrement fiable. Maintenant, il l'a un peu beaucoup confirmé. T'sais, on se souviendra que les images à sa nomination qui circulaient, c'était quand à Fox News, il avait lancé une hache sur un marching band qui passait par là parce qu'il essayait un lancer de hache, mais genre en plein milieu de la rue. Fait que ça a failli poigner quelqu'un. C'est ça. C'est de ce calibre-là que ce gars-là, avec aucune compétence, que justement, parce que J.D. Vance a été obligé d'utiliser son veto de vice-président, parce que sinon, il ne passait pas au conseil c'est les sénateurs, sauf erreur, qui le choisissaient. C'est ça. Il confirme que sa nomination va durer à peu près 30 jours et ça sera déjà terminé pour lui.
Oui, puis pour vous donner une idée, là, c'est ça, le Espionnage Act de 1917, qui est une loi fédérale qui a changé beaucoup en travers les années. En fait, a été destiné à empêcher toute tentative de gêne avec les opérations militaires américaines, comme le soutien d'ennemis du pays pendant la guerre, la promotion de l'insubordination de l'armée américaine ou l'interférence du recrutement américain. C'est ça, puis ils ont statué que c'est pas une loi qui viole la liberté d'expression. Il y a eu une couple de personnes qui ont été, entre autres, accusées. Eugène Victor Debs, Victor Elberger, qui a été infirmé en appel par la suite. Joseph Franklin Rutherford était les Julius Rosenberg, Daniel Esberg, Chelsea Manning, Edward Snowden, Ralph Winner et Julian Assange. Donc, il y a des gens qui disent « Hey, c'est une violation du Espionnage Act.
Oh » oui.
Imagine si le journaliste avait partagé ça. Ça mettait en danger les vies d'Américains.
C'est vrai, parce qu'il aurait pu, il aurait pu publier avant même que l'attaque ait lieu et dire là, on pense qu'il va y avoir une attaque. Fait qu'il aurait sorti le scoop parce que ça aurait pu changer. Peut-être qu'il n'y aurait même pas eu d'attaque. Ça c'était ça. Mais tu as dit 2 heures à peu près qu'il y a eu l'information. Fait que à quel point il aurait eu le temps. Non, ça s'écrit
pas. Il est à la. Tu sais, c'est le rédacteur en chef d'un.
Ouais, il aurait eu le moyen de faire une petite brève très rapide sur son site de dernière heure. Il y aura des attaques au Yémen d'ici 15h30.
Ouais, ou tu sais, il y a des contacts, là. Il aurait pu. J'ai dit, j'ai un scoop. On m'a invité par hasard dans un truc. Amène-moi en ligne, tu sais. Puis. Il y a des contacts, le gars, c'est sûr. Là, il aurait pu s'en intervenir par une grosse chaîne. Puis, faire comme un lanceur d'alerte. Là, il y avait tout le temps du monde. C'est aberrant que ça se soit passé.
Mais c'est ça. C'est les répercussions, bien sûr. Mais voilà, il a quand même été plus sûr qu'il le fallait de peut-être pas alarmer. Parce que justement, si c'est une... Parce que comme son réflexe est bon, si c'était une blague, si c'était pas c'était une fausse conversation qu'il décide de sortir avec ça puis que c'est pas vrai, il aurait eu l'air fou. Fait que c'est un peu normal qu'on comprenne qu'il y ait eu un petit peu plus de réserve, mais c'est ça, ça reste.
Ouais,
ça.
Parce que qui aurait pu croire que t'as invité par hasard quelqu'un puis tu checkes même pas qui qu'il y a dans ta conversation puis que finalement t'as le...
Avant de commencer à écrire, de pas regarder à qui t'envoies tes messages, effectivement.
Hey, c'est... ça a aucun bon sens, tu sais, genre...
Ouais.
Comme, je veux dire, mettons, tout le monde a déjà fait ça, là. Moi, j'ai déjà, avant d'envoyer un message dans un groupe que j'ai créé ou que je... J'ai vérifié à qui je l'envoyais. Là.
Ouais,
comme
ouais.
Ça prend pas.
Ben eux, ils ont des équipes qui font ça d'habitude.
Normalement, ils sont supposés avoir des équipes.
C'est ça.
Bref.
On en est bouche bée. Ouais.
Voilà. Puis ben, les réseaux sociaux s'amusent depuis. Depuis hier, avec ça, justement, des mimes avec Hillary Clinton, j'ai utilisé serveur privé, une face de maga fâchée, le gars, j'ai donné des informations classifiées militaires, les petits magas qui mettent leurs mains devant les yeux. C'est correct, y a pas de problème. Bref, les mimes vont faire la job peut-être sur Twitter pour faire... démissionner, puis être exact.
Je me demande comment ils vont se l'approprier, comme J.D. Vance qui s'est approprié sa face ronde.
Oui, c'est vrai, il y a ça. Puis, ben, il y a un portrait laid de Donald Trump aussi qui circule de ce temps-ci. Une peinture laid de Donald Trump qu'il n'aime pas particulièrement et qu'il l'a dit sur les réseaux sociaux et que tout le monde reprend en disant « Ce serait donc de valeur que ce portrait laid de Donald Trump qu'il n'aime pas soit repartagé massivement sur les réseaux sociaux. Il aimerait pas ça. Ça serait plate. »
Ah ben...
c'est le pouvoir du web à certains niveaux. On fait une courte pause musicale sur les ondes de CFAQ. La suite de cette émission au retour.